Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Transistor pour votre émission de cinéma et bonsoir à toi Occitane.
Bonsoir Rémi. Cette semaine, nous emmenons sur l'autoroute de l'enfer avec deux films au titre ironique, A Beautiful Day de Lynn Ramsey qui retrace la descente dans les dessous sordides de New York de Joe, un vétéran traumatisé de la guerre d'Afghanistan. Et puis Paradis d'André Konchalovsky qui, loin de se dérouler dans un lieu idyllique, dépeint en réalité la Seconde Guerre mondiale à travers les destins de trois personnages, une résistante, un collaborateur et un SS dans un camp de concentration. Un numéro fort peu paradisiaque donc, et nous sommes avec Maë et Léa pour en parler, qui ont par deux fois vainqueur traversé l'Achéron pour vous parler de ces deux films. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Dans une deuxième partie, nous te retrouverons aussi, Maë, pour nous parler du festival Montagne en scène. Nous glisserons deux mots sur le documentaire Sans adieu que tu es allé voir, Léa. Et puis, nous traverserons la Manche pour une troisième chronique toute toile dehors avec Caroline. Mais sans plus tarder, on vous retrouve, Occitane et Léa, donc, pour nous parler de Beautiful Day.
Alors, A Beautiful Day, dont le titre original est plutôt You Were Never Really Here. Donc, nous pouvons une fois de plus déplorer les ravages de la pseudo-francisation des titres de films. Donc ce film retrace le parcours de Joe, vétéran traumatisé par les atrocités dont il a été témoin en Afghanistan. Devenu homme de main et tueur à gages, il est contacté par le sénateur Voto qui lui demande d'aller délivrer sa fille enlevée par des trafiquants de mineurs, prostituée de force. Les comparaisons avec Taxi Driver n'ont pas tardé à pleuvoir, notamment entre les pages du Times. Joaquin Phoenix a même reçu le prix de la meilleure interprétation masculine à Cannes pour ce film. Tandis que, dans les cahiers du cinéma, Jean-Philippe Tessé qualifie le film de nanar qui se fantasme en objet clinquant et aristoïde, et tout autant l'inverse, enfin quelque chose qui traduit surtout un mépris ultra-bourgeois du cinéma. Et d'autre part, dans Libération, Marcos Uzal en fait un insupportable mélange de complaisance sanguinaire et d'effets chichiteux. Des mots durs et un film pour le moins clivant donc. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé, Léa ?
Je suis assez d'accord avec les deux dernières phrases, même si je trouve que bon, il y a un peu un plaisir de la rhétorique, machin. Alors moi, en allant voir le film, j'étais assez sceptique sur la com qui était faite dessus. Il y a quand même écrit sur l'affiche la phrase du Time que tu as citée, donc le taxi driver du 21e siècle. Je me dis, bon, à quel moment on fait de la publicité pour un film en parlant d'autres films ? Enfin, je trouve ça un peu triste. Et puis en fait, en allant voir le film, j'ai mieux compris, parce que c'est un film ultra référentiel, au point qu'on voit presque que ça. On a des gros clignotants, Park Chan-wook, oh, gros clignotants, Kubrick, gros clignotants. Et c'est presque du copier-coller de certaines scènes, et j'ai trouvé ça assez triste. Moi, ça m'a gâché le film, parce qu'il aurait pu trouver sa propre identité. On sent dans certains plans qu'il y a quelque chose, mais du coup, on l'oublie complètement, on pense à autre chose. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et on a l'impression que c'est un film voilà, qui prend des pauses, qui essaye de montrer des scènes un peu emblématiques, symboliques, machin. Mais que bah, derrière, il n'y a pas grand-chose. La construction des personnages, je ne l'ai pas trouvée bonne, on n'y croit pas. C'est dommage. En revanche, une BO très, très, très belle, faite par le guitariste de Radiohead. Voilà. Et ils sont pas lourds sur le côté de ce personnage vétéran. Parce qu'ils auraient pu en faire des tartines, mais non. Ça, c'est les deux points qui m'ont plu. Donc, voilà, j'ai pas aimé le film. Et je dirais à nos auditeurs, allez écouter la BO.
Donc, oui, alors, c'est vrai que c'est un film qui est très référencé, qui vraiment se regarde un peu. Ça, c'est sûr qu'on peut pas le nier. Mais après, moi, j'ai bien aimé le parti pris de prendre les codes typiques du nouvel Hollywood et d'essayer de les appliquer à la guerre qui s'est déroulée au Moyen-Orient. Enfin, je sais pas, je trouve que Joaquin Phoenix marche très très bien dans cette espèce de figure de l'errance comme ça, dans ces espèces de longues scènes de voiture et ses regards sidérés. Enfin, avec son regard, il a quand même des yeux d'un bleu très pâle, très caractéristique, qui je trouve apporte quelque chose de nouveau dans la manière de le filmer lui. Et puis j'aime bien la manière dont, comme tu disais, sont traitées les scènes du traumatisme, enfin du traumatisme qui revient comme des espèces d'images tendres qui sont suscitées par des effets d'écho. Enfin, j'ai beaucoup aimé la scène où il y a des touristes qui lui demandent de le prendre en photo et la posture que prennent leurs bouches, par des espèces de très gros plans qui fractionnent leur visage, vont créer des effets d'écho avec l'image traumatique des charniers qu'il a pu voir en Afghanistan. Et toute cette manière de ramener petit à petit son passé et tout ça, et de le réactualiser comme une guerre qui a été médiatisée, mais peut-être pas autant que le Vietnam, etc. Bah, de le ramener comme ça, et de cette manière d'utiliser les outils du Nouvel Hollywood pour le faire, moi j'ai trouvé ça quand même assez fin, même si c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de références, on se place clairement sous l'égide de nombreux réalisateurs d'époque. Après, c'est vrai que le tableau de la société corrompue, tout ça, bon, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu poussif par moment. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur les personnages qui, le père qui est là, qui dit oui, faites-les souffrir. En même temps, on comprend que c'est un politicien corrompu, on comprend pas très bien ses histoires. Enfin, les politiciens qui sont vraiment très très méchants, plus pédophiles par-dessus. Enfin, voilà, on charge beaucoup la mule, quoi. Mais bon, je pense que le titre anglais aurait peut-être été du coup plus adapté à ce niveau-là au film. Donc c'était You Were Never Really Here, ou en français Tu n'as jamais vraiment été là, enfin, si on traduit après.
Ouais, c'est vrai, ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux puisque ça centre d'un coup l'attention sur quelque chose de plus, sur la mentalité de cet homme-là, de ce personnage, et sur son traumatisme à lui, etc. Enfin, cette espèce de moment où en fait tout est fragmenté, que tout l'image est presque devenue abstraite au profit d'effets d'ombre et de lumière, au fur et à mesure que sa vie s'effondre sous le coup répété de son stress post-traumatique, comme on dit. Et du coup, on peut se demander pourquoi ils ont choisi ce titre qui essaye de faire passer ça pour un truc poético-ironique.
Oui, puis pour remettre un titre en anglais, donc prétexte de la traduction marche même pas.
Enfin... Oui, le prétexte de la traduction marche même pas. Bon, moi, je serais peut-être moins, moins dur que toi. Moi, je le conseille quand même, je le trouve quand même agréable à regarder. C'est agréable de se laisser porter, de se laisser emporter par ces trajets. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a quand même une forte impression de... C'est typiquement ce genre de film, à la sortie desquels on dit, on a mis une pincée de ça, avec une pincée de ça, un peu de ça, et puis on touille, et ça fait ça, quoi. Voilà.
Et tout de suite, donc, on poursuit avec le deuxième film de cette soirée. On est toujours avec toi, Léa, et puis bonsoir, Maë. On va parler de Paradis d'Andrei Konchalovsky, le vétéran du cinéma russe, qui donc, dans ce film, nous montre, comme tu le disais, Occita, dans l'introduction, trois personnages. Le personnage de Jules, père de famille, inspecteur de police, et donc collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis on a Olga, une aristocrate russe qui va être déportée pour avoir aidé à cacher des enfants juifs. Et Helmut, un jeune officier allemand, issu lui aussi de la grande noblesse allemande, et qui est traversé par tous les idéaux de l'Übermensch et de la création d'un grand paradis allemand, le mot est prononcé. Alors avant d'aller beaucoup plus loin, je vais vous demander votre avis, Léa Maë, sur ce film.
J'ai adoré.
D'accord. Et Maë, même si paraît que tu as vécu d'autres émois cinématographiques depuis.
J'ai aussi adoré, même si c'est mon... Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Bon, je crois qu'on est trois. Hein. C'est vraiment un film absolument magnifique. On reviendra dessus formellement, mais aussi sur le propos qui tient. C'est un film qui a quelque chose d'austère, mais qui recèle une beauté assez incroyable. Enfin, il y a quelque chose de vraiment foudroyant aussi dans la façon dont c'est filmé, dans ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par cette forme, parce que c'est quand même un film qui est très très formel dans sa démarche. C'est un film qui est en noir et blanc, qui suit un format 4 tiers très très épuré. On a des plans fixes, presque exclusivement. Je ne crois pas me souvenir d'un seul vrai mouvement de caméra. Malgré tout, ça reste pas une succession de tableaux. Enfin, je veux dire, il y a quand même un montage assez alerte, mais quelque chose d'une caméra qui se pose sur les scènes par petites touches et quelque chose d'une grande douceur dans cette forme. D'autant plus que dans le traitement des camps de concentration, il y a quand même tout un historique un petit peu lourd, mais aussi au niveau du traitement et le fameux travelling abject de Capot, coucou Jacques Rivette. L'espèce de crise qu'il y a pu y avoir avec la liste de Schindler et pas mal de critiques, et c'est un peu aussi la réflexion qu'on se faisait en sortant de la salle, rapproche justement le traitement qui est fait de ce que faisait Laszlo Nemes avec le fils de Saul il y a 2 ans, qu'on avait chroniqué ici et beaucoup adoré à l'époque. Il y a quelque chose d'un refus du spectacle dans la façon dont les choses sont montrées, qui justement est contraire à ces grands scandales qu'il y a eu un peu dans le traitement de ces événements au cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le premier élément vraiment touchant, c'est justement le fait qu'on s'approche des choses, mais sans jamais être dans une dynamique spectaculaire. Et juste dans une... Vraiment, on se pose sur eux, on a envie de dire un petit peu comme cette lumière qui englobe un peu tout et on voit.
Il y a quelque chose de très intimiste, oui. Notamment avec, comme ça commence, on est entre 4 yeux, il y a nous et le personnage qui s'adresse, on a l'impression, juste à nous, même si bon, on comprendra rapidement que c'est pas vraiment à nous qu'il s'adresse, mais voilà, on est dans une pièce fermée, il n'y a rien d'autre à voir que ce personnage qui nous parle, et c'est vrai que ça nous fait rentrer dans quelque chose de calme et en même temps ça nous fait vraiment rentrer dans le film.
Oui, c'est le choix de s'intéresser à des parcours individuels. Et donc il y a 3-4 individus dans ce film. Et un vrai choix d'humilité, en fait. C'est le renoncement à l'objectivité, enfin à la pseudo-objectivité qui devenait une sorte de spectaculaire, en fait, de ces autres films sur la Shoah. Avec une narration qui choisit l'approche par la réminiscence. Et il y a une vraie réflexion sur l'histoire, en fait, qui se tisse, je trouve, parce qu'on a plusieurs temps, 3 temps surtout. Il y a le temps de leur mort, donc c'est un espèce de non-temps, de le temps de Saint-Pierre, le temps du paradis.
Oui, voilà, parce que pour expliciter ce que disait Maë, vraiment, le personnage est à une table et nous parle comme si on venait de lui demander de raconter ce qui l'avait amené là. Et on comprend très bien que ces personnages sont justement aux portes de ce paradis. On reviendra sur la position assez délicate dans laquelle ça nous met en tant que spectateur, mais il y a vraiment ce temps qui est un non-temps, comme tu le dis. Oui,
et puis après, on a d'autres temps, donc le temps de la rafle, et un autre temps, c'est, je crois, mon préféré, c'est ce qui était avant. Donc là, on a tous, ça fait émerger des vieilles strates d'une espèce d'aristocratie allemande en déliquescence qui sont dans un espèce de nihilisme, qui trouvent plus de but et qui est assez bien porté par un personnage qui est secondaire mais qui devient un personnage important du film. Ça dresse comme ça un espèce de portrait. Il y a toutes ces strates qui se mélangent et donc renoncer à en faire un espèce de grand portrait, mais on a une sorte d'archéologie par petites touches. C'est très très beau.
Oui, quelque chose qui se retrouvait chez Nemes là aussi, c'était le fait que l'horreur étant anodine dans les camps, on ne s'attarde jamais sur elle. Et simplement, on la montre en passant. Il y a une scène terrible où une vieille femme meurt et d'un coup, en quelques secondes, elle est dépouillée de tous ses vêtements et on passe à autre chose. Parce que, dans les faits, en effet, on passe à autre chose. Et cette volonté de ne pas s'attacher à l'horreur, justement pour la rendre encore plus insupportable parce qu'anodine, il y a une scène où un personnage raconte la sensation de la terre qui bouge sous ses pieds lorsqu'il y a encore des gens vivants qui sont enterrés. Enfin, des choses vraiment insupportables comme ça. Et l'insupportable est redoublé de cette humilité qui consiste à ne pas en faire un spectacle, justement. Je pense aussi à ces scènes d'une ironie terrible où le directeur du camp se félicite de la rentabilité de son camp, des rendements qu'il a réussi à obtenir et part dans un grand éclat de rire. En fait, c'est beaucoup plus glaçant que toutes les tentatives de nous montrer un opéra grandiose et macabre qui deviendrait grotesque un petit peu.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais Léa, une volonté d'une réflexion historique justement sur cette histoire-là, avec quand même, on voit bien les trois personnages qui représentent quand même trois types d'acteurs de cette Seconde Guerre mondiale, avec le SS, héritier d'une grande aristocratie allemande, avec aussi le policier français qui collabore, mais qui n'aime pas les Allemands, mais qui collabore quand même. Enfin, on voit ici l'ambiguïté de sa position, et enfin la résistante russe qui résiste et qui aussi finit victime dans les camps. Donc ne serait-ce qu'avec ces trois personnages, on sent le regard historique qu'on porte, et je pense que peut-être que cette volonté justement de montrer deux choses déjà, cette volonté de montrer l'horreur mais sans s'y attarder, c'est peut-être aussi qu'on est à la recherche d'un certain regard d'historien presque, c'est-à-dire on dit les faits mais on n'entre pas dans le pathos, c'est pas notre but. Et la deuxième chose, c'est cette forme où justement les personnages vont se confesser comme si c'était à l'entrée du paradis. Ça donne l'impression que ce sont des témoignages, comme si on avait pu recueillir des témoignages directs de l'histoire, et ce sont en fait des sources historiques presque, c'est au spectateur d'analyser. Et du coup, je pense que tout ça, effectivement, ça amène une vraie réflexion historique sur cette période.
Oui, et au-delà de cette réflexion historique qui est vraiment évidente, qui est manifeste et qui est menée avec finesse, on a tout un second niveau de lecture qui est porté déjà par le titre du film, qui atteint un stade un peu plus métaphysique, on va dire, on peut même y aller carrément, parce que toute la question se pose de la création du paradis. C'est quand même ce que cherchent à leur façon ces personnages. On a, alors évidemment, la phrase est prononcée plusieurs fois, il s'agit de créer un paradis pour les Allemands. Mais est-ce que finalement le collabo est pas aussi en train de sauver son petit paradis personnel, ses petites promenades dans la forêt avec son fils? C'est une question qui se pose vraiment, et la phrase tombe au milieu du film un peu comme un couperet. Il n'y a pas de paradis sans enfer, et c'est le personnage du directeur du camp qui le dit, et cet enfer, je l'ai créé.
Et avant que le personnage du directeur du camp le dise, on entend une prisonnière qui récite les vers de Dante du début de l'enfer de la Divine Comédie, et ça aussi, forcément, c'est un clin d'œil. C'est la chiate ogni speranza voi che entrate. Et là, oui, on pose la question.
Et on se retrouve vraiment face à du coup, cette tentative complètement aveugle de créer un paradis et de personnages qui ne réussissent à créer que l'enfer. Alors, à une exception finale près, sur laquelle on pourra peut-être revenir sans trop en dévoiler non plus. Et à côté de ça, on a une lucidité des personnages secondaires, mais qui est là pour un petit peu en contrepoint. Mais vraiment, les personnages principaux, je trouve que ce qui prévaut dans leur attitude, c'est l'aveuglement. C'est le fait qu'ils sont dans cette lumière dont le film est inondé, et que de fait, ils ne voient pas qu'ils sont en train de créer l'horreur. Et c'est les moments où l'horreur apparaît justement qui font basculer le film petit à petit. Ce moment où l'officier nazi voit un de ses amis qui commence à douter, à sombrer un petit peu dans le mélange d'alcoolisme et de folie. Cet ami avec qui, c'est des gens cultivés, il lisait Tchekhov, ça revient régulièrement, toute cette culture. Et ce moment où d'un coup l'enfer apparaît au milieu du paradis qui est censé être en gestation, ça crée des moments extrêmement forts dans ce film qui le scandent un petit peu.
Même s'il y a quand même des moments d'ambiguïté, notamment chez le personnage du SS, qui dès le début pose justement les indices qui montrent que le personnage va vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas du paradis. Même au moment où il est censé être encore dans son illusion et ne pas voir l'enfer qu'il est en train de construire, il y a quelques indices qui nous permettent de montrer qu'au fond, peut-être qu'il est sans doute un peu...
Oui, quand la fenêtre s'ouvre et qu'il sent l'odeur des camps, il sent presque...
Même bien avant
fermée,
ça, quand il est pris de nausées devant Himmler, quand dans le bois...
Une scène dans la forêt, voilà. Une scène magnifique dans la forêt de ce personnage qui s'arrête tout simplement parce que, pris d'une envie pressante, il arrête sa voiture et il va dans la forêt. Et là, il se retrouve pris dans une brume splendide et semble apercevoir des formes mouvantes autour de lui et qui cinématographiquement est vraiment... vraiment splendide, y a pas d'autre mot. Et du coup, face à ce paradis, eh bien, il faut bien savoir qui va y accéder ou pas, en tout cas au paradis, au vrai. Qui est juge? Nous. Et ça, c'est terrible.
Très ambigu. très, très étrange, mais intéressant par rapport à l'histoire, encore une fois. Qui on est pour regarder ça? Qu'est-ce qu'on est censé se dire? Enfin, c'est... Ouais, c'est troublant.
C'est troublant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que oui, on se retrouve dans la position de Saint-Pierre. Oui. Enfin, moi, ça m'a frappé dès le départ. Hein. Je voyais ce personnage se confesser et on est en train de juger la prétention au paradis de tous ceux qui nous ont précédés, quelque part. C'est assez terrible. Et au dernier moment, le cinéaste a l'intelligence de nous remettre à notre place de spectateur, de nous ôter cette prétention-là aussi. Par un dernier geste cinématographique et un dernier geste, y compris dans l'histoire elle-même, un dernier geste de ce personnage de résistante qui soudain parvient par une espèce de sacrifice ultime et de geste magnifique à le créer, ce paradis, dans une dernière scène qui est vraiment magnifique, alors qu'on va pas vous dévoiler, mais qui parvient à atteindre une espèce de stade de sublime qui réussit à ne pas être quelque chose d'odieux par rapport à tout ce qui a précédé dans le film. Enfin, là encore, c'est vraiment la délicatesse qui prévaut jusqu'à la fin. Et, personnellement, je trouve que c'est vraiment parfaitement maîtrisé du début à la fin et que c'est un très très grand film, tant sur le plan historique que sur le message qu'il essaye de faire passer.
D'une grande finesse.
Assez d'accord.
Donc on peut que vous conseiller d'aller le voir, chères auditrices, chers auditeurs. Il passe encore cette semaine au petit cinéma, le cinéma Impasse Saint-Polycarpe dans le premier. On y a été l'autre soir et puis rien que d'aller à ce cinéma, c'est toute une expérience. Alors ne vous privez pas. Et maintenant, Léa, tu as vu Sans Adieu?
Oui, j'ai été voir Sans Adieu cet après-midi. Par quoi commencer?
Qu'est-ce que ça raconte peut-être? Enfin, c'est un film documentaire.
C'est un film documentaire qui se situe dans le Forez, où on nous présente la lutte, ou plutôt le chant du cygne d'un monde rural d'éleveurs. Qui se retrouve aux prises avec un autre monde qui n'apparaît pas directement dans le film, mais en gros on veut les exproprier et vendre leur bétail parce qu'ils ne sont plus solvables. D'abord, ce qui m'a marqué, c'est la photographie de ce film. C'est une image, surtout au départ, qui est... pleine de pluie, de tourbe, qui est terreuse, boueuse, minérale. Et dans les plans, parce qu'on rentre dans les maisons des éleveurs, il y a vraiment tout qui se mélange, les vieux journaux, de l'organique, de l'animal, des gens. Et donc, plus qu'une série de portraits, je dirais que ce sont des véritables tableaux. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un tableau de Cézanne en particulier, qui s'appelle « La femme à la cafetière », où on a comme ça une attention aux mains du paysan, aux habits, et puis aussi à toute la pièce qui l'entoure, avec toujours cette cafetière qui fume. Mais voilà, il réussit à pas tomber dans une sorte de voyeurisme absurde qu'on pourrait avoir, qu'on a parfois dans le film social. Pourquoi ? Parce que c'est un regard qui est d'abord un regard esthétique qui s'attache à la sensibilité. Christophe Angou, qui réalise le film, il dit au début avoir grandi dans ces lieux, et on sent que c'est d'abord l'envie de montrer l'âme d'un lieu qui prévaut. Bon, alors en même temps, on pourrait se dire que c'est un peu la caution, la caution facile, mais il y a vraiment cette attention aux saisons qui passent. On commence dans cette pluie battante, et le premier rayon du film fait tellement de bien. Et donc, c'est cette approche contemplative qui, je ne sais pas si ça sublime, si ça enrobe, ou si ça propose une sorte de contrepoint à ce qui est vraiment le propos du film, enfin le propos des protagonistes. Donc ce sont ces éleveurs dépossédés de leurs biens, de leur ferme, de leurs bêtes, pour des raisons différentes que je n'ai pas toujours bien compris. D'ailleurs, il y en a un, il me semble que c'est la vache folle, l'autre c'est simplement qu'elle elle n'a plus assez de sous, et donc qui dans cette espèce de lutte avec le monde moderne, c'est un peu comme ça qu'il l'appelle, mais un monde moderne qui est toujours dans le hors-champ, c'est toujours dans le propos des personnages, c'est aussi dans un coup de téléphone de la banquière, et à chaque fois, c'est une véritable attaque, quoi. C'est un coup de hache qui vient encore leur enlever un truc, et donc un fond douloureux, un fond sensible, une très grande beauté aussi, et donc des gens qui se battent en sachant qu'ils sont perdants, mais pour dire quelque chose. Voilà, moi je l'ai trouvé un peu long, je crois, ce film, 1h40, mais voilà, j'étais contente qu'il soit fini, ce qui ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais c'est un film que je conseille.
D'accord, donc on va le voir.
Oui.
Et si on va le voir, on va le voir où il passe, dans ce même petit cinéma, le cinéma où il passera cette semaine.
Alors, pendant que Léa était à la campagne, toi tu es partie à la montagne, Maë, au festival Montagne en Seine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors oui, c'était la semaine dernière à Lyon. Et en fait, ce Montagne en Seine, c'est un mini-festival qui se déroule en une soirée seulement et qui diffuse tout simplement des films de montagne, amener la montagne dans la ville. C'est là le but des organisateurs et créateurs de ce festival.
D'accord, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as vu, de ce format déjà de ce festival ?
Donc les films de ce festival, ils peuvent être courts, très courts ou moins courts, et ce sont des reportages. Et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est qu'ils cherchent à filmer des activités qui relèvent du sport, sport extrême, des films qui sont sur la haute montagne, ce qui fait que n'importe qui en fait ne peut pas filmer ces images, parce qu'il s'agit de suivre des alpinistes, de suivre des skieurs de très haut niveau. Et du coup, c'est souvent les acteurs, les sportifs qui s'improvisent réalisateurs, ce qui, à mon sens, donne quelque chose d'assez intéressant, parfois aussi des maladresses dans ces films, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et le tout, en fait, et les maladresses qu'il peut y avoir au niveau de la forme sont souvent rehaussées par tout simplement des paysages absolument grandioses qui nous sont montrés à l'écran.
D'accord, et du coup, quel film tu as vu, par exemple ?
Alors, il y avait donc plusieurs petits films, parfois des films un peu plus grands. D'abord, la soirée a commencé avec un film hommage à Rayleigh Steck, qui était un grand alpiniste contemporain, qui est décédé en mai dernier sur les pentes de l'Himalaya, ce qui d'ailleurs met dans l'ambiance, parce qu'on sait que les gens qu'on va voir sur ces pellicules sont des gens qui prennent des risques et qui régulièrement, effectivement, se tuent dans leur passion. Bref, voilà, c'est tout ça pour... c'est pas très joyeux, mais en l'occurrence, ce film, c'était un très beau film hommage. Ensuite, j'ai vu Yamas, Snow Maids in Greece, qui est un film en fait qui suit le road trip de quatre copains, quatre Allemands qui partent surfer en Grèce. Alors oui, c'est une grande découverte, il y a de la neige en Grèce, sur les pentes du mont Olympe notamment. Donc c'était un film très chouette, très dynamique et très joyeux. Et qui faisait plaisir à voir, parce qu'il y a aussi toutes ces scènes où ils sont dans leur minivan, où ils prennent leur petit délire de monter jusqu'à la neige, puis après de redescendre jusqu'à la mer. Enfin bref, c'est un film très agréable à voir. Ensuite, j'ai vu This is Home, avec Candide Tovex et Air Sildaru, qui est un très court film de freestyle où on voit un gamin de 10 ans rivaliser avec la légende du freestyle Candide Tovex. Ça devait durer 5 minutes, mais bon, ça suffit à nous convaincre du talent du gosse. Ensuite, donc, j'ai vu Waking Dream avec Sam Favrette et Julien Herry. Ce sont un film qui se déroulait à Chamonix, un film sur le ski en pente raide, très raide, avec donc des images magnifiques des montagnes et des pentes qui sont parfois, je crois qu'à un moment c'était quelque chose comme 35 degrés, ça vous donne une idée de la pente, et on voit donc ces deux sportifs qui descendent la pente en ski. Qui d'ailleurs aussi se mettent en danger, hein, parce qu'on voit notamment à un moment une avalanche à laquelle je crois que c'est Sam Favrette manque de se laisser emporter. Enfin bref, encore des images impressionnantes mais très belles. Et enfin, il y a eu le film Rizzo Patron, Hasta las Huevas, qui a été mon film préféré, donc j'ai envie de vous en parler un peu plus longtemps, où en fait on voit l'aventure de trois amis qui décident d'aller grimper un sommet de la montagne, une montagne chilienne qui n'avait jamais été gravie jusque-là et qui a reçu d'ailleurs, je crois que c'était en 2014, le Piolet d'Or, qui est une récompense d'alpinisme. Et ce film a été fait par le très excellent collectif des Flying Frenchies. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous faire un peu le topo parce que quand même c'est un collectif qui gagne à être connu. Je crois qu'ils sont isérois. Tiens, tiens. Mais donc ce sont des gens qui ont décidé de créer un collectif entre la haute montagne, la montagne et l'art, et notamment l'art du cirque. Et en fait, ce collectif porte l'art jusque en montagne et mêle en fait leurs activités extrêmes d'alpinisme ou n'importe quoi, par exemple les highline, là, pour ceux qui ne connaissent pas, ces sortes de sangles qui sont tendues au-dessus de précipices la plupart du temps, mais devant des paysages magnifiques et sur lesquels les gens vont marcher comme des funambules. Enfin bref, c'est le collectif des Flying Frenchies qui font souvent de très très bons films, et là encore c'était donc eux qui sont à l'origine de ce film Réseau Patron. Et je trouve que ce film il a tout en fait, c'est-à-dire qu'il a le côté film d'aventure où on voit le périple de ses amis qui de la France décident d'organiser ce voyage, qui déjà essayent de se rendre au pied de cette montagne, ce qui est déjà pas facile parce qu'il faut déjà rejoindre un petit village perdu de pêcheurs chiliens coupés du monde, ensuite aller en bateau avec un de ces pêcheurs et essayer de traverser un fjord rempli de glace pour arriver à l'endroit où ils vont établir leur campement, ensuite la construction d'une cabane pour tenir un mois à cet endroit tout seul loin du monde, et surtout le fait qu'ils soient comme ça, et c'est ce qu'ils disent beaucoup dans le film, qu'ils soient comme ça coupés du monde, qu'ils soient au Chili, loin de tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la sécurité qu'ils peuvent avoir par exemple dans les Alpes où il y a toujours cette idée qu'il y a l'hélico qui peut venir chercher en cas de problème, et d'ailleurs, parfois il y a des problèmes, et là notamment ils ont dû gravir ce Réseau Patron en deux tentatives, dans deux années successives, parce que la première année l'un des trois amis s'est fait mal en tombant dans une crevasse. Et voilà, donc ça mêle l'aventure, l'amitié, les sports extrêmes et tout ça avec des images magnifiques et avec tout ce soupçon d'excitation du fait que ce sont aussi des explorateurs. Ils vont à un endroit de la planète où aucun homme n'est jamais allé et c'est assez enthousiasmant.
Et du coup, selon toi, qu'est-ce que ces films, ça nous dit, ça nous raconte sur la montagne aujourd'hui, par exemple ?
Je trouve que ces films, ils nous donnent à voir des hommes et des femmes qui repoussent les limites de leurs conditions, et c'est ça qui est assez exaltant à mon sens. C'est ils vont là où ils n'auraient jamais dû pouvoir être capables de se rendre, ils se confrontent à une nature qui va les dépasser, ils prennent des risques. Et finalement, c'est à la fois une leçon d'humilité face à la nature qui s'impose à eux et devant laquelle ils ne sont rien. Et c'est cette notion d'humilité, elle revient pas mal justement dans ce dernier film dont j'ai parlé, Réseau Patron, où ils disent voilà, on est sur les pentes de cette montagne-là, on est soumis aux aléas de la météo, on est soumis à cette nature qui est parfois dangereuse. Et donc ça nous renvoie à notre propre insignifiance. Mais en même temps, ce qui est assez jouissif, c'est qu'avec cette humilité, il y a aussi une forme d'insolence presque infantine de la part de toutes ces personnes qui, en fait, vont faire des choses un peu absurdes, c'est-à-dire décider de grimper sur cette montagne alors qu'il y a de la neige, qu'il y a des crevasses, qu'il fait super froid et qu'il y a du vent, qu'on n'y voit rien. Et on se demande mais pourquoi ils font ça, et finalement ils le font parce que on ne sait pas trop justement, et ils sont un peu insolents face à cette nature qui s'impose à eux. Et il y a des phrases qui marquent, notamment je pense à cette phrase dans Réseau Patron justement, où ils disent « Tomber dans une crevasse avec une corde, ça on l'a tous déjà fait des dizaines de fois ». Parce qu'après tout, qui n'est jamais tombé dans une crevasse ? Et là, ils disent donc en gros, pas de bol, parce que cette fois-ci, le personnage s'est déboîté l'épaule et a plusieurs jours de voyage du premier médecin. Mais il y a cette sorte de nonchalance et d'insolence face au risque et face à la vie aussi. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et le tout sur des paysages magnifiques, des panoramas absolument splendides, ce qui donne des films aussi très agréables à regarder. Voilà.
Eh ben merci beaucoup Maë pour cette aventure que tu nous fais partager. Et tout de suite, nous allons retrouver Caroline pour Tout Toll de l'Or de l'autre côté de la Manche.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Tout Toll dehors. Cette semaine, nous délaissons les frimas de l'automne pour vous emmener sous le torride soleil estival de Floride, pour le meilleur comme pour le pire, grâce au nouveau film de Sean Baker, intitulé The Florida Project. Souk et ferme Moussaillon, le nouveau monde nous attend.
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway!
Présenté lors de la quinzaine des réalisateurs et récompensé au festival de Hambourg, The Florida Project est une ode à l'enfance, à son innocence et à sa ténacité, pleine de fougue et sans limite. Le titre fait référence au Florida Project de Disney, un complexe de motels qui furent développés aux alentours du parc d'attractions Disney World à Orlando. Conçus à l'époque comme des solutions d'hébergement plus accessibles, ces projets n'ont d'utopique que le nom, comme The Magic Castle, le château magique, ou encore The Futureland Inn, l'auberge du futur. Autant d'étiquettes d'un rêve américain plein de promesses qui est cependant démenti à chaque plan et détour du scénario. Baker nous montre en effet comment ces motels renferment aujourd'hui des familles entières qui, entassées dans 30 mètres carrés, survivent bon gré mal gré grâce à l'activité économique générée par le parc. Le film dresse un portrait vivant de cette communauté en suivant les jeux des enfants du motel en pleine vacances d'été. La vie dépeinte est dure. Et pour autant, Baker y insuffle une énergie débordante, un sens de l'émerveillement et un irrespect salvateur. The Magic Castle est un lieu de vie où se côtoient des individus venus de partout et d'ailleurs, qui nous sont allègrement présentés par Mooney, personnage principal qui, du haut de ses 6 ans, se plante devant une des portes du motel et clame fièrement à ses amis que le locataire qui vit là se fait arrêter tous les 4 matins. Toute cette petite communauté aux allures de grande famille est protégée par Bobby, le gérant du motel, interprété par Willem Dafoe. Quinquagénaire bienveillant, il veille au grain et ne manque pas de sauver la mise à plus d'un résident. On appréciera de retrouver dans ce rôle un Willem Dafoe qui nous prouve que oui, il est plus que le Joker vert ricanant du blockbuster du dimanche soir sur nos écrans de télévision. Samuel Baker opte dans cet opus pour un naturalisme minimaliste qui, centré sur la perception de Mooney, donne une énergie sans pareil au plan. Adepte des nouvelles technologies comme le tournage sur iPhone, il reprend ici la caméra, mais une caméra fluide, qui courent à la suite des enfants et partagent leurs jeux et leurs bêtises. Cette focalisation quasi interne joue avec la perception oblique de l'enfant d'une situation qui ne lui échappe qu'à moitié. Sa mère grime en effet ses propres agissements sous la forme de jeux avec sa fille, mais n'en est en fait pas moins réduite à la revente illégale de parfums onéreux sur les parkings d'hôtels de luxe alentour. Point de musique pour un film qui mêle avec brio documentaire social et récit d'initiation, et ne manque pas de nous rappeler le récent Moonlight, lui aussi tourné en Floride pour certains choix de mise en scène. Baker tourne en 35 mm, en utilisant des objectifs grand-angle à travers lesquels se déploient comme jamais coucher de soleil, ciel bleu électrique et chaleur du sud des États-Unis. Le grain de la pellicule est à même de rendre ces perspectives inouïes propres à l'Amérique, cette étendue offerte aux éléments, qui est ici pourtant colonisée par le simulacre capitaliste des magasins de produits dérivés Disney et autres temples de la consommation. Des plans larges, presque panoramiques, nous montrent par exemple les silhouettes quasi inexistantes des enfants qui errent devant des magasins gigantesques, aux enseignes monumentales telles que Orange World ou encore Ice Cream. Ceux-ci deviennent à leurs yeux autant de terrains de jeu où la joie enfantine vectorise son propre chemin de liberté et pousse un grand cri « Laissez-moi vivre ». Dans la droite lignée de Lost River de Ryan Gosling, The Florida Project opère un zoom sur le petit, l'oublié, le détail sur le bas-côté de la route, celui qu'on ne voit pas lorsqu'on passe à toute vitesse sur l'échangeur, le pied sur l'accélérateur, direction le prochain nœud de communication. Si Gosling avait choisi de traiter son récit initiatique dans une ambiance fantastique et néo-noire, Baker choisit de coller à la peau de cette Amérique déchue, qui garde ses éclats d'espoir dispersés. Nous rejoignons alors Mooney qui, assis sur un arbre déraciné, nous confie « I love it, 'cause it's tipped over and it's still growing. » Je l'aime beaucoup car, même tombé, il continue de grandir.
Let me tell you about some things that I believe.
Chères auditrices, chers auditeurs, courez vite voir The Florida Project qui sera dans vos salles à partir du 20 décembre. En attendant, nous vous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de Toute Toile Dehors.
That's the best way to enjoy our afternoon. the sun goes down much too soon.
Et tout de suite, on retrouve Rémi qui va nous parler des sorties de la semaine.
Tout à fait, Occitane. Alors, quelques petites sorties. D'abord, je ne sais pas si on avait déjà parlé du nouveau Guédiguian, mais alors, il paraît que c'est un bon Guédiguian et puis il a l'air bon. En effet, il sort aujourd'hui, chers auditeurs. Ça s'appelle La Villa, c'est présenté entre autres chez nos partenaires des cinémas Lumière, et ça se passe alors évidemment près de Marseille, hein, c'est du Guédiguian, avec une famille ou un groupe d'amis qui sont... perturbé, enfin le mot est pas très heureux, par l'arrivée de migrants qu'ils vont accueillir. Un thème qui renouvelle peut-être un petit peu le cinéma de Guédiguian quand même, qui était, il faut le dire, un petit peu fermé sur lui-même, et ça peut apporter un petit peu de fraîcheur dans son cinéma. À voir donc, parce que pour une fois son film fait quand même un petit peu l'unanimité, donc je pense que ça vaut l'occasion d'y aller. Et ça passe donc à partir d'aujourd'hui, entre autres Lumière Terreau. Je continue sur le documentaire, parce qu'il y a toujours plein de documentaires à voir, et entre autres, ces temps-ci, le documentaire, ben, c'est deux pardons, bien sûr, avec 12 jours hein, sur les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, et c'est 12 jours après lesquels ils vont devoir voir un juge. Le documentaire sort aussi aujourd'hui, en sortie nationale, il passe donc entre autres aux Lumières Terreau. Et puis pour ceux qui veulent prolonger un petit peu le plaisir de pardon, cet immense documentariste, le Lumière Bellecour projettera mardi 5 décembre, son film 10e chambre instant d'audience, où donc de mai à juillet 2003, le réalisateur a filmé le déroulement des audiences de la 10e chambre correctionnelle de Paris, et ça en fait, comme souvent chez Depardon, un documentaire citoyen sur le fonctionnement ici de la machine judiciaire. Ça sera donc à 18h45 en séance présentée mardi soir aux Lumières Bellecour. Et alors que les gens s'esclaffent de l'autre côté de la fenêtre du studio, un documentaire de plus et pas des plus drôles, L'usine de rien, en présence du réalisateur Pedro Pino, sera présenté lundi 4 décembre à 19h15 au cinéma Comédia. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la production, ils décident d'occuper les lieux. Et à leur grande surprise, la direction se volatilise en laissant au collectif toute la place pour imaginer de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle de gouvernement dominant. Voilà, ça sera lundi donc à 19h15 en avant-première présenté par le réalisateur, et ce film a reçu entre autres le prix Fipressi à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Puis pour détendre un petit peu l'atmosphère, encore que les triplettes de Belleville au générique de cette émission pour les plus sagaces d'entre vous... Les triplettes de Belleville, donc, sera projeté, et pas tout seul, en ciné-concert, s'il vous plaît. Ça sera mardi 5 et mercredi 6 à l'Auditorium de Lyon. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à y aller pour voir ce qui est quand même l'un des films d'animation qui ont fait date dans l'histoire de ce genre. Ça fait toujours plaisir à revoir en plus un film qui a un petit peu marqué la jeune génération que nous étions à l'époque. Et puis pour terminer en ciné-concert également, Mars Attacks de Tim Burton, la délirante comédie martienne de Tim Burton qui sera projetée, ça sera le 2 décembre à 20h au Ciné-Café Aquarium à Croix-Rousse. Pour ceux qui ont jamais vu ce film un petit peu détonnant, il faut le dire, c'est une excellente occasion, et ça sera donc une improjection, puisque un groupe de jazz improvisera pendant la projection du film. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 74e numéro. Aujourd'hui, vous entendiez Occitane Lacurie, Léa Jusso, Maë Burla et Rémi Cerda. La semaine prochaine, numéro un petit peu particulier, puisqu'il vous faudra attendre mercredi soir pour nous écouter. Mais mercredi soir, nous serons en direct, s'il vous plaît, pour le premier direct de l'année. Ne manquez surtout pas ça, bien sûr, et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.